Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichy.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et pour ce tout premier numéro de 2024, en plein cœur de l'épiphanie, nous allons logiquement parler de galettes des rois. Ils s'en vont avec les brioches comprises, plus de 80 millions chaque année en France. Et qui dit galette dit beurre. Mon premier invité est Laurent Chupin, le directeur du syndicat des laiteries de Charente-Poitou. Avec lui, nous ferons un zoom sur cette marque, sur ce nom très apprécié, très connu des Français, le beurre Charente-Poitou, qui bénéficie d'une AOP depuis 1996. Qui dit galette dit aussi fèves. Malheureusement, 95% d'entre elles sont produites en Asie, mais il y a quelques bonnes résistances françaises. C'est le cas de Panessiel, qui crée des fèves en porcelaine et personnalisées, et en plus fabriquées en Isère. Le fondateur de Panessiel, Jean-Michel Rojat, est en plateau avec nous. Enfin, ce début 2024 est également marqué par l'obligation de trier nos déchets alimentaires. Des solutions apparaissent sur le marché pour accompagner notamment les collectivités ou encore les entreprises. Caetera propose certaines de ces solutions via des composteurs fonctionnels, esthétiques et là encore made in France. On en parlera avec mon troisième invité, c'est Gauthier Forgerie, le cofondateur de Caetera. Vous connaissez la comptine, j'aime la galette, savez-vous comment, quand elle est bien faite avec du beurre dedans? Eh bien, en ce week-end de l'épiphanie, on va donc mettre à l'honneur une filière essentielle pour faire de bonnes galettes, surtout celle à la frangipane, mais surtout cette filière est très importante pour l'agroalimentaire français. Il s'agit de la filière beurre et notamment le beurre Charente-Poitou AOP. Bonjour Laurent Chupin.
Bonjour.
Et merci d'être le tout premier invité 2024 de la France à tout pour réussir. Vous êtes directeur donc du syndicat des laiteries Charente-Poitou. On va parler donc avec vous des méthodes de production, du cahier des charges que cela implique. Et puis aussi, on parlera du poids économique du beurre Charente-Poitou. Alors, vous bénéficiez, je le disais, d'une AOP obtenue en 96, appellation d'origine protégée. Avant, il y avait eu une AOC en 79. L'AOP, rappelez-nous ce que cela implique.
Alors, l'AOP, c'est appellation d'origine protégée. Hein. C'est un cahier des charges qui est reconnu par l'Europe, en fait, hein, donc qui protège des pratiques, en fait, qui sont inscrites dans un cahier des charges et donc qui impose un certain nombre d'exigences en termes de production à la fois pour le lait, pour les producteurs, mais aussi, bien sûr, à la production du beurre, avec certaines caractéristiques que le beurre doit avoir.
Alors, c'est aussi une zone géographique. La région Poitou-Charentes n'existe plus administrativement. Maintenant, donc, c'est inclus dans la Nouvelle-Aquitaine. Mais donc, la zone qui concerne cette AOP, c'est 5 départements. Rappelez-nous, c'est 5 départements de l'ouest de la France.
Exactement, il y a 5 départements. On a effectivement les 4 départements de l'ex-région Poitou-Charentes. Et quand on ajoute un autre département de cette zone-là, qui est la Vendée, le Poitou-Charentes devient le Charente-Poitou. Et c'est un peu l'inverse d'ailleurs qui s'est passé, parce que la zone Charente-Poitou est un bassin laitier historique qui est bien antérieur en fait à la création des régions administratives.
Alors vous me parliez voilà des méthodes de production, d'un cahier des charges. Comment est-ce qu'on fabrique ce beurre qui bénéficie de cette AOP? Vous parlez, je crois, de maturation biologique, donc ça veut dire qu'il y a des étapes très précises. Est-ce qu'on peut donner quelques-unes de ces étapes?
La première des étapes, c'est d'avoir un bon lait. Au-delà de la fabrication du beurre, il est essentiel d'avoir un bon lait. Donc on a nos producteurs, on a à peu près près de 800 exploitations hein, qui sont sur notre territoire et qui produisent un lait de qualité dans un cadre de cahier des charges, comme on l'a dit. Et une fois qu'on a ce lait, on va faire un écrémage, donc on va récupérer la partie grasse en fait du lait.
Donc ça, on chauffe le lait pour obtenir la crème?
Alors on le chauffe pas en fait, on va le centrifuger simplement,
on le centrifuge,
en fait,
d'accord.
Pour pouvoir extraire la crème, et on va lui faire subir un certain nombre d'étapes, en particulier effectivement la maturation biologique, dans laquelle en fait on va rajouter des ferments qui vont aider la crème à s'acidifier et à développer un certain nombre d'arômes.
Ce petit goût de noisette, c'est ça?
Ce petit goût de noisette, il est né là effectivement, il prend son essence à ce moment-là, mais au-delà de ce goût, ils vont aussi pouvoir produire beaucoup d'autres composés et avoir un certain nombre de caractéristiques qui vont être utiles au moment du barattage, de la fabrication à proprement parler du beurre. Et donc, on aura aussi un usage particulier parce qu'on aura une plasticité spécifique au beurre et c'est ça qui est intéressant et qui est recherché par les pâtissiers en particulier en ce moment pour faire des bons feuilletages.
Ce que vous mettez en avant, c'est la qualité des laiteries. C'est quoi? C'est le local? C'est aussi des exploitations à taille humaine? C'est quoi les valeurs que vous mettez en avant dans Beurre Charente-Poitou AOP?
Alors ce qu'on met en avant effectivement, c'est une origine locale, par définition une appellation d'origine protégée et circonscrite à un territoire spécifique. On est véritablement dans une activité qui est non délocalisable par nature. Le beurre Charente-Poitou ne pourra être produit qu'en Charente-Poitou, que sur cette zone.
Et c'est plutôt sain, c'est plutôt bien.
Absolument.
Parce que quand on a vu qu'on a laissé partir l'appellation Savon de Marseille, c'est plutôt bien de savoir que là on est un peu plus protégé.
Tout à fait. Alors clairement, c'est un cadre tout à fait spécifique et ça construit en fait tout un territoire aussi, parce que quelques 750 ou 800 exploitations qui produisent du lait, des éleveurs, des agriculteurs qui sont aussi autour de ce territoire-là. Et ils font travailler aussi beaucoup de monde. Dans les laiteries, on a beaucoup de monde, donc on est très attaché effectivement à ça. Il y a véritablement un écosystème finalement qui se crée entre un produit fini qui est utile, qui est reconnu depuis de nombreuses décennies, et puis un territoire qui a besoin en fait d'un point de vue économique aussi de cette activité.
C'est combien d'emplois directs et indirects à peu près?
On estime à environ 30 000 emplois directs et indirects le lien en fait à ce beurre Charente-Poitou AOP, parce que il y a toute la partie qu'on appelle amont, c'est-à-dire la production du lait véritablement qui emploie beaucoup de monde et qui fait travailler aussi beaucoup de monde autour des exploitations, dans et autour des exploitations, et puis aussi dans les laiteries, on a besoin de collecter le lait, on a besoin de le transformer, on a besoin de le commercialiser, de le mettre en avant, donc effectivement ça fait travailler beaucoup de monde.
Ouais. Comment se porte la filière lait? On parle beaucoup depuis de nombreuses années, de haut, de bas, comment se porte-t-elle?
Alors effectivement, la filière laitière est chahutée depuis un certain nombre d'années. On a une problématique aussi de renouvellement des générations qui n'est pas spécifique à la filière laitière, mais qui s'impose au monde agricole et de façon assez générale à un certain nombre d'autres activités économiques. Et effectivement, c'est chahuté. Et ce qu'il faut relever, c'est que une AOP qui est donc circonscrite à un territoire particulier a un effet protecteur en fait, parce que ça aide à ancrer une activité dans un territoire. Ça permet de valoriser ce territoire, mais aussi les hommes et les femmes qui y sont. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche de façon très spécifique. Ouais.
Et on reste le deuxième pays européen producteur de lait. On n'est pas challengé par d'autres pays.
Oui, alors, bien sûr qu'on est challengé par d'autres pays, mais ça reste effectivement une part importante en fait de production de lait de vache et de lait de chèvre d'ailleurs aussi en France.
On revient sur le beurre et sur cette AOP qui concerne cette marque que les consommateurs connaissent bien. Vous les avez là, donc on peut en citer quelques-unes. On voit la maison Lescure, grand fermage, Montaigu, Échiré, Pampli, si je me trompe pas, voilà. Cette marque font partie de l'AOP depuis le début. C'est une AOP qui s'ouvre à d'autres marques. Est-ce que c'est évolutif?
Alors, ça peut être évolutif effectivement, c'est-à-dire que les marques que vous avez là en fait, ce sont des marques commerciales en fait qui sont utilisées par un certain nombre de laiteries. Il y a certaines laiteries qui font le choix de commercialiser le beurre Charente-Poitou AOP avec plusieurs marques commerciales. C'est parce que ça va être utilisé dans des circuits de distribution qui peuvent être différents par exemple. Effectivement, certaines sont historiques, d'autres ont pu être créées avec le temps. Donc ça, c'est la vie des entreprises, c'est la vie des marques qui peut jouer aussi là-dessus. Ce qui est certain par contre, c'est que toutes les laiteries, et donc toutes les marques, s'engagent en fait à respecter un cahier des charges qui est identique en fait. Et on va retrouver pour tous les mêmes exigences en termes de fabrication du beurre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir quelques nuances, parce qu'on va pouvoir imaginer des arômes un petit peu différents, un peu plus poussés sur telle ou telle marque, en fonction des besoins de leurs clients, en fonction des usages qu'on va avoir. Hein, on va se retrouver un peu dans la même situation que pour les vins, où on va apprécier un vin d'une certaine appellation, mais à l'intérieur, on va préférer un château plutôt qu'un autre. Quoi.
Et un mot sur les prix, on est sur des produits plutôt premium dans la gamme de beurre?
Globalement, on a plutôt des produits premium, effectivement, parce que l'étape de maturation biologique dont on parlait tout à l'heure, elle doit faire au minimum 16 heures. Alors, on ne se rend pas forcément compte, mais 16 heures, bah, c'est long, en fait, dans la fabrication de produits alimentaires. Et donc, bah, ça a un coût, ça, c'est important. L'engagement des producteurs à suivre un certain nombre de cahiers d'exigences sur une alimentation locale des animaux, sur le sans OGM, sur sans additifs, sur tous ces aspects-là, bah, ça a un coût aussi qui est rémunéré par les producteurs. Donc, en fait, quand vous achetez un beurre Charente-Poitou, vous garantissez aussi qu'il y ait une survaleur qui soit apportée auprès du producteur.
Et ça se paye.
Et donc, ça se paye, effectivement.
En quelques mots, Laurent Chupin, vous avez donc le savoir-faire, il faut le faire savoir. Vous avez ce que vous appelez des ambassadeurs, donc des chefs pâtissiers ou cuisiniers qui portent un peu la marque. C'est le cas de Nina Métayer. Oui. Et évidemment, donc, on en a beaucoup plus parlé depuis quelques mois, puisqu'elle est championne du monde de pâtisserie depuis la fin du mois d'octobre. Vous avez eu le nez creux parce que vous l'avez recrutée il y a déjà 4 ans, je crois.
Oui, c'est ça. On travaille avec Nina qui utilise le beurre Charente-Poitou de façon historique pour elle, même si elle est très jeune.
Parce qu'elle est rochelaise aussi.
Elle est rochelaise, hein, voilà. Effectivement. Donc elle est en plein dans la zone de production du beurre Charente-Poitou à OP. Elle le dit elle-même, hein, c'est le beurre de son enfance qu'elle avait sur ses tartines pour le petit déjeuner, mais c'est aussi le beurre avec lequel elle a appris son métier de pâtissière, en fait. Et donc c'est aussi cet attachement-là qu'elle met en avant. Et effectivement, on a eu la chance de la rencontrer au bon moment parce qu'elle était véritablement intéressée pour mettre en avant les ingrédients qu'elle utilise, en fait.
Et je précise qu'en ce week-end de l'Épiphanie, donc elle a trois modèles qui sont fabriqués donc avec vos différents beurres, le flocon des rois, mais aussi l'envol et l'ambré. Ça coûte entre 29 et 49 euros. Ce n'est pas donné en effet, mais comme vous le dites, la qualité, ça a aussi un prix. Et qui dit galette des rois, donc juste quelques chiffres, 80 millions de galettes vendues chaque année en France. 9 Français sur 10 ont consommé ou acheté au moins une galette en janvier 2023. Et 43% des galettes sont achetées chez un artisan pâtissier ou boulanger. C'est ce qui ressort du baromètre IFOP que vous avez commandé donc à l'IFOP. C'était vous qui l'aviez demandé, pardon. Jean-Michel Roja, vous aviez commandé et je vous salue. Donc vous êtes à la tête de ce petit village de résistance qui fait des fèves françaises. Je le disais dans les titres, 95% des fèves sont produites en Asie. Mais donc il y a des îlots de résistance, un peu comme chez Astérix, mais vous, ça se passe du côté de Grenoble. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Parlez-nous un peu de votre activité. Donc, vous êtes à la tête de Panéciel, que vous avez créé, je crois, en 1989.
C'est ça. Une petite entreprise qui est née de la crise de la boulangerie française, au moment où sont arrivés les points chauds, les artisans se demandaient comment ils allaient pouvoir résister à cette industrie. Et différentes marques sont arrivées, Panéciel, mais des plus connues comme Banette, etc. Tous les meuniers se sont unis pour aider les artisans. Et donc nous, on a créé à ce moment-là un journal professionnel pour les artisans où on recueillait dans des cercles de travail les bonnes pratiques, comment on fait quand on est un artisan pour exprimer sa qualité et pour exprimer sa différence. Voilà.
Face à tous ces points qui sont juste souvent des points de cuisson, hein, c'est bien ça, voilà, pour dire je suis un artisan boulanger et je suis fier de l'être et voilà comment je travaille.
C'est ça. Il y a eu tout un travail de prise de conscience pour chaque artisan qu'il était lui-même le lieu, il était nativement circuit court. Et les artisans ne s'en rendaient pas compte et petit à petit, et notamment le Covid a beaucoup aidé à ça, à se rendre compte que si on veut manger dans un village ou dans un quartier, quand il y a des crises mondiales ou etc., bah c'est bien de pouvoir compter sur son artisan qui va trouver du beurre, de la farine, du lait, des œufs pour nous donner notre repas. Voilà. Donc les artisans ont pris conscience qu'ils étaient circuit court. Voilà. Et donc, dans notre journal, quand on a cherché des solutions pour développer les artisans, on a découvert la puissance de l'épiphanie. L'épiphanie, c'est vraiment une fête exceptionnelle pour l'artisan. Parce que.
C'est un gros chiffre d'affaires aussi.
Gros chiffre d'affaires. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a aussi, à l'intérieur de chaque galette, il y a une fève. Et cette fève, elle peut, si l'artisan boulanger le souhaite, dire quelque chose. Dire, moi, je ne suis pas international. Je suis déjà national, j'essaie d'avoir des produits, de fournir dans des bons produits français. Et en plus de ça, je suis local. Et c'est pour ça que les artisans boulangers
développent. On voit voilà quelques-unes de vos fèves, celles que vous avez produites. C'est celle de cette année ou c'est un échantillon depuis quelques années.
Ce sont des échantillons. C'est plutôt pour montrer que les artisans peuvent faire plein de belles choses avec leur épiphanie. Là, par exemple, c'est un artisan qui fait la galette solidaire avec le Secours Populaire. Donc, chaque galette vendue, vous savez que la galette, c'est quand même un temps de partage historiquement. Chaque galette vendue, l'artisan va remettre 1 euro au Secours Populaire de son département. Et donc, ça, c'est le boulanger peut exprimer qu'il a envie de faire ça. Il peut, là, on a un boulanger des 24 heures du Mans, bien sûr, qui parle des 24 heures du Mans. Il peut aussi mettre en valeur un artiste local. En fait, l'épiphanie est le moment où chaque artisan peut parler de qui il est.
C'est un support de communication. Ces fèves, elles coûtent évidemment plus cher que les fèves qu'on produirait sans doute en plastique en Asie. C'est quoi le ratio entre une fève de basse qualité, de moyenne qualité qui vient de très loin et celle que vous proposez? C'est de 1 à 3, c'est de 1 à 10, c'est quoi?
Il y a tous les prix dans le domaine de la fève.
Ça coûte combien vos fèves? Voilà, ça coûte combien?
Ça coûte à peu près 1 euro une fève made in France, et les fèves venues d'Asie peuvent coûter 1 euro aussi, mais descendre jusqu'à 20 centimes. Et il faut bien savoir qu'il y a différents marchés. Il y a les marchés des industriels qui, eux, cherchent de la fève plutôt à 20-30 centimes. Absolument. Et puis il y a les artisans qui eux veulent affirmer leur différence. Donc soit ils prennent des très très belles fèves venues d'Asie, parce qu'en Asie, voilà, on peut prendre le temps de peindre chaque fève, donc on peut faire vraiment des très très jolies fèves, ou bien ils peuvent choisir de la fève made in France qui expriment leur différence artisanale. Et c'est notre domaine, c'est d'aider l'artisan à exprimer sa différence dans son territoire, dans son village, dans son quartier.
En quelques mots, Jean-Michel Rojat, comment ça se fabrique, vos méthodes de production? C'est très artisanal, c'est fait en Isère. Racontez-nous ce que l'on fait. Comment est-ce qu'on crée une fève? D'accord. Que vous proposez?
Alors, ça commence par proposer aux artisans boulangers des idées. Les artisans boulangers, c'est des artisans. Un artisan, dans artisan, il y a artiste, hein, donc ça veut dire qu'ils ont plein d'idées, ils ont toujours plein de choses et ils veulent toujours faire à leur façon. Donc notre métier, c'est de leur proposer des variétés. Donc on leur dit, pourquoi vous ne soutiendriez pas un refuge animal, pourquoi vous ne soutiendriez pas un artiste, une association, etc. On leur donne ces idées. Ensuite, chacun se dit, ah ouais, dans mes clients, il y en a un qui m'a dit ça, tac, 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 on va faire quelque chose avec lui. Donc ils se réunissent dans un boulanger, donc on est vraiment à l'initiative à l'origine d'initiatives. Donc parfois ils font participer les enfants des écoles, etc. Donc on crée dans chaque boulanger de France une animation, quelque chose se passe, mais qui vient du cœur des boulangers.
Et sûr, parce qu'il nous reste vraiment une minute, donc sur les méthodes de production, racontez-nous vraiment comment ça se passe. Alors, comment est-ce qu'on les fabrique?
Donc, une fois que le boulanger a choisi son thème, il nous envoie les images qu'il souhaite mettre sur ses fèves. Il y a tout un travail pour mettre une image sur une fève, c'est un peu plus compliqué que sur du papier, ça cuit à 800 degrés, donc il y a tout un travail. Et ensuite, on va faire des chromos, donc c'est de la sérigraphie, comme dans la porcelaine qu'on connaît de nos grands-mères. Voilà, on va faire un chromo et on va imprimer ces chromos. Et ensuite, on va déposer chaque chromo à la main, de manière très très délicate, et c'est très très...
Et c'est fait par qui et où, dans quel atelier?
Alors ça c'est fait par l'atelier avec qui on co-traite, c'est-à-dire on fournit le matériel et l'ingénierie, et l'atelier fournit le personnel et le management.
Et vous employez entre 10 et 15 personnes, voilà. C'est très saisonnier bien sûr, et c'est en Isère.
Hein, c'est en Isère, voilà, on est une dizaine au bureau, et on est une dizaine à l'atelier, 6 mois par an, pour l'atelier de décoration.
Est-ce que vous exportez, est-ce que ces fèves made in France, est-ce qu'elles s'exportent? Nous on importe beaucoup d'Asie. Est-ce que les nôtres, elles s'exportent un peu?
Oui, alors on exporte, mais alors on ne fait pas exprès d'exporter, c'est une demande, et notamment des beurres Lescure et du groupe Savincia, qui ont des artisans boulangers français un peu partout dans le monde, et qui, par exemple, nous demandent de fournir ces boulangeries en Asie, un peu partout dans le monde.
On va poursuivre avec un autre thème pour cette deuxième partie de l'émission, puisque outre l'épiphanie, ces premiers jours du mois de janvier sont marqués par l'entrée l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition de la loi AGEC, le compostage des déchets alimentaires. Officiellement, depuis quelques jours, nous n'avons plus le droit de jeter ces déchets dans nos poubelles classiques. Évidemment, tout ça, c'est de la théorie. On va voir comment la pratique se met en place. On va en parler avec vous. Bonjour, Gauthier Forgerie.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général et cofondateur de Caeterra, que vous avez créé il y a un peu plus d'un an avec Paul Marchizio, mais vous le connaissez depuis beaucoup plus longtemps sur les bancs de l'université.
C'est ça.
Parlez-nous de votre concept, parlez-nous de Caeterra et des produits, on va en voir quelques-uns que vous commercialisez.
Caeterra, on est parti du principe qu'on voulait démocratiser, rendre un peu sexy le compostage pour pouvoir l'exposer aux yeux de tous, parce qu'un composteur exposable, il est quand même beaucoup plus utile. Donc on a essayé de moderniser, de le rendre un petit peu ludique pour apporter ce côté un peu pédagogie que les gens ont besoin pour adopter ces nouvelles pratiques.
Alors ces nouvelles pratiques, elles passent donc par des composteurs. Est-ce que vous adressez le marché des particuliers? Ça, je crois que ça va venir dans quelques temps.
Oui.
À l'heure actuelle, vos cibles, ce sont les collectivités et les entreprises et les copropriétés.
C'est ça. Ça peut être là aussi le secteur du tourisme, donc la restauration, l'hôtellerie, les campings. On est en B2B, on travaille avec une multitude de clients venant de différentes typologies, en fait.
Alors, ces produits, il y en a deux. Vous en avez un juste à côté. Ça, c'est une exclusivité pour la France à tout pour réussir. Il est commercialisé depuis quelques jours, depuis ce tout début janvier 2024. C'est quoi le principe de ce composteur?
Je vais peut-être vous le présenter. Donc effectivement, c'est une exclusivité pour BFM. Donc en fait, on avait le modèle 2023 qu'on n'avait pas breveté. Et puis là, on a ajouté des modifications. Donc c'est breveté depuis le 1er janvier 2024. Donc comment ça marche? Finalement, l'utilisateur va pouvoir déposer ses biodéchets dans le point d'apport, recouvrir ses biodéchets de matière sèche. Donc cette matière sèche, on la fournit. Elle est stockée dans un réservoir juste à côté. On les recouvre et ensuite, on va pouvoir actionner la colonne d'aération mélangeuse. Donc là, ça va brasser, aérer la matière, assainir au maximum le milieu. Donc ça, ça va être hyper intéressant parce qu'on n'a plus besoin, si vous voulez, d'avoir une personne référente. En fait, l'utilisation, la charge d'entretien, elle va être répartie sur l'ensemble des utilisateurs.
Leur bonne volonté, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque de dégradation? Est-ce qu'il y aura assez de matière sèche? Est-ce qu'il y a l'acte volontaire d'aller porter ces déchets? Est-ce que vous avez pris en compte ça ou est-ce que ça restera des facteurs un peu compliqués?
Le produit, il est vendu avec de la formation, donc sur place ou en visioconférence, pour vraiment accompagner le client au maximum, pour lui rappeler les petites règles à suivre. Et puis après, on est quand même assez flexible sur ce qu'on peut mettre dedans. C'est quand même l'avantage de ce produit-là.
Donc ça, c'est pour les communes, c'est pour les collectivités, ça peut être dans les restaurants, ça peut être dans les copros aussi. Vous le vendez combien ?
Alors, celui-là, c'est le 450 litres, il va être vendu 1 690 €. Mais globalement, on va de 1 500 jusqu'à 4 000 pour les jardins composteurs qui sont bien plus imposants, en fait.
Alors, c'est quoi les jardins composteurs? Si vous voulez, vous pouvez reprendre votre place ici. Les jardins composteurs, donc on va voir quelques images. Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à ces composteurs simples? Les jardins composteurs, vous les appelez terre fertile, je crois.
C'est ça. En fait, c'est une jardinière qui intègre en son centre une tour de compostage, comme celle que je viens de présenter. Et la particularité de cet objet, c'est un concept un peu pédagogique parce que les nutriments qui se dégradent dans la tour de compostage centrale vont être absorbés en fait par capillarité dans les terres environnantes. Donc on a un petit concept de permaculture qui est sympa pour les écoles notamment. Et puis le compost qu'on va pouvoir récupérer dans les seaux par la trappe inférieure, on va pouvoir la redéposer directement au niveau des plantes.
Donc là, on a beaucoup parlé du fait de déposer les choses. Ensuite, il y a la collecte quand même pour certains de vos produits. Qui s'occupe de la collecte? Est-ce que c'est les entreprises qui le font déjà dans les communes ou les collectivités?
Alors, on a deux offres différentes. Le client, il peut décider d'utiliser lui-même son compost. Donc, il ramasse son compost dans les seaux en partie inférieure. Mais des fois, il n'a pas de surface végétalisée ou pas d'intention d'utiliser du compost. Alors là, on va organiser la collecte avec des partenaires. Donc ça peut être Green Wishes par exemple, ça peut être les alchimistes. On essaye de quadriller un peu tout le territoire.
Vous proposez donc une offre payante. C'est quel montant? C'est un abonnement, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors là, ça va vraiment être au cas par cas, mais en gros, il faut retenir qu'on divise environ le prix de la collecte par 5, parce qu'on diminue la récurrence de la collecte. Au lieu que ce soit une à deux fois par semaine, là on peut se permettre de l'organiser une fois tous les 10 à 12 semaines en fait.
Société que vous avez créée, donc je le disais, il y a un petit peu plus d'un an, date, beaucoup de contrats. Est-ce que l'amorçage de la commercialisation se passe bien?
Alors, elle s'est bien passée en 2023. C'est vrai qu'on a signé des premiers projets pilotes avec des grandes entreprises, notamment Shell et puis plein d'autres.
Donc Shell, c'est dans leur station-service qu'ils mettent à disposition des gens qui viennent faire le
plein.
Alors,
pas à disposition des gens, pas au public, mais plutôt à leurs équipes.
D'accord,
qui gèrent l'influx biodéchets.
Okay, d'accord. Et donc, d'autres marques, voilà, d'autres villes peut-être, des communautés de communes aussi.
Oui, on peut en retrouver dans l'agglomération Senneur, on peut en retrouver à Châtel, à Bougival, au Mans, dans tout un tas de collectivités également.
Et tout ça, ça fait un chiffre d'affaires en forte progression, 300 000 euros en 2023 si les comptes sont à jour. multiplié par 10 pour 2024, c'est vos prévisions. Hein.
C'est ça. Bah, c'est vrai qu'on a la loi qui pousse un peu dans le dos et puis on a déjà des gros contrats de signés, pas encore livrés. Mais en 2024, oui, on passe dans une autre sphère, disons.
Le beurre made in Charente-Poitou, les fèves made in Isère, et vous, c'est made in où?
Alors, made in Hauts-de-France, on vient de s'installer dans notre nouvelle usine à Albert, qui est dirigée par Geoffrey, notre super directeur de prod, donc qui gère tout ça. Et donc, c'est dans la Somme, et tout est fait en France avec des matériaux français, ouais.
Avec un joli design, c'est important, l'acceptabilité aussi visuelle des choses, quand on parle de déchets, avec tout ce qu'on imagine, avec les odeurs, avec les rongeurs, avec les petites bestioles, c'est important d'avoir quelque chose qui donne envie de venir y déposer ses déchets alimentaires.
C'est ça, il y a deux choses. Le compost a mauvaise image en France, parce qu'effectivement, ça peut être un peu dégoûtant de temps en temps, il peut y avoir des odeurs, des rongeurs, donc tout un tas de désagréments qu'on règle avec nos solutions. Et puis il y a cette dimension un peu esthétique aussi. On ne voulait pas que ce soit le composteur caché au fond du jardin ou derrière un bâtiment. Non, on voulait que ce soit quelque chose d'exposable aux yeux de tous et que l'expérience utilisateur, elle soit nickel, quoi.
Combien de salariés à date chez Caetera et quelles sont les perspectives d'embauche si le marché se développe fortement, ce qui va être le cas, je pense?
Alors, au 2 janvier 2024, on était 11. On espère être 25 en fin 2024 et 35 à 40 fin 2026.
Ah oui, jolie progression comme le chiffre d'affaires. Un tout dernier mot, on l'a évoqué un peu, vous allez adresser le marché des particuliers qui va être très important parce que nous avons tous maintenant cette obligation, même si on sait qu'elle n'est pas contraignante, mais elle va le devenir, je pense, quoi.
C'est ça, on a une gamme donc en cours de conception, elle devrait sortir en juin 2024, on espère ne pas avoir de retard, et effectivement ce sera adressé à tous les particuliers français et même international.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été les premiers invités 2024 de la France à tout pour réussir, des domaines très différents, les fèves, le beurre et le compostage. Mais on était au cœur de l'actualité de ce week-end de l'épiphanie. Très belle année à toutes et à tous qui nous suivaient fidèlement depuis plus de 7 ans maintenant. La semaine prochaine, une toute nouvelle émission de la France à tout pour réussir sur BFM Business. À très bientôt.
BFM Business, la France à tout pour réussir.